France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
C'était lors d'une visite d'un quartier populaire, 19 avril 2021, Emmanuel Macron à Montpellier. Et une dame du quartier l'interpelle. Elle ne lui parle pas de logement, de pouvoir d'achat ou même de sécurité. Elle lui dit cette chose saisissante. « Mon fils de 8 ans m'a demandé si le prénom Pierre existait vraiment ou uniquement dans les livres, tellement il y a un manque de mixité dans le quartier. » Cette anecdote et tant d'autres, on la trouve dans ce livre « Et les Blancs sont partis », livre de reportage qui s'attaque à un sujet tabou, bien souvent laissé à l'extrême droite, la ghettoisation des quartiers populaires. Arthur Freyer-Lalec sillonne depuis 10 ans ces quartiers pour Le Monde, le site Street Press ou la revue Zadig. Comment ce phénomène se manifeste-t-il? Quelles conséquences? C'est l'objet de ce livre qui sort alors que le début de la campagne présidentielle fait une bonne place aux questions d'identité et d'immigration. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages. Bonjour Arthur Freyer-Lalec.
Bonjour.
Un mot du titre « Et les Blancs sont partis », c'est une phrase que vous avez souvent entendue en reportage.
C'est un titre qui est une citation et cette citation, je l'ai souvent entendue dans la bouche de personnes que j'ai interrogées, des gens qui sont maliens, sénégalais, marocains ou franco-maliens, franco-sénégalais, etc. Ce sont des gens qui souvent le déplorent, ce départ des Blancs. Très loin de ce qu'on entend dans la bouche de l'extrême droite, ils en seront souvent les premières victimes. Pour eux, ils voudraient de la mixité, contrairement à ce qu'on entend trop souvent.
Ce qui est frappant dans ce livre, c'est que les mots que les habitants de ces quartiers emploient, et que donc vous retranscrivez dans ce livre, n'ont rien à voir avec les mots que souvent les médias ou les hommes politiques utilisent. Alors, mixité sociale, vivre ensemble, non. Dans ces quartiers, on parle de noir ou de renois, de rebeu, de voilà, on met les mots sur les choses.
On parle d'haïtien, on parle de
comorien,
De comorien. Il y a une réalité, les gens sont beaucoup plus décomplexés dans les quartiers populaires français pour parler de la réalité de la France contemporaine, c'est-à-dire de la France multiculturelle. On a une sorte de paradoxe et de schizophrénie en France aujourd'hui. D'un côté, on est une nation multiculturelle, de fait, on l'est. Et d'un autre côté, on ne sait pas comment en parler, on ne sait pas comment nommer les choses, comment l'évoquer. Le reportage, le fait d'aller dans les quartiers et de donner la parole aux gens, donne cet avantage-là. Les gens en parlent et ils sont en même temps français. Les deux se côtoient, et c'est pas l'un ou l'autre comme on l'entend trop souvent. Les deux se mélangent et c'est ça qui est passionnant, de raconter ces communautés. Je pense que ce terme-là de communauté, il faut pas en avoir peur. C'est pas du communautarisme.
Oui.
C'est vraiment de la vie ensemble, de la solidarité, pas du tout de repli sur soi comme on l'entend trop souvent, comme l'extrême droite a trop souvent imposé sa définition des termes. Et faire du reportage, je pense par exemple aller à la cité des 4000, à la Courneuve, où on a une importante communauté comorienne, dans les quartiers nord de Marseille, où on a aussi une importante communauté comorienne, où vous allez à Mantes-la-Jolie, au Mureau, où là on a beaucoup de Sénégalais. À chaque fois, on a un morceau de l'histoire de France qui se dessine, et c'est ça qui est passionnant. Les Sénégalais des Mureaux et de Mantes-la-Jolie, c'est des gens qui sont venus bosser dans l'automobile. Les Comoriens sont très présents à Dunkerque, à Marseille, parce que c'était des ports. Et ils sont arrivés par là. Strasbourg, on a une importante communauté turque. Mais on a aussi des villes bien plus modestes. Je pense à Saint-Dié, dans les Vosges, où on va avoir une communauté sénégalaise.
Mais ça veut dire aussi, parce que c'est le cœur de votre livre, vous parlez de ghettoisation ethnique, et vous allez m'expliquer, ça veut dire aussi que tous ces quartiers sont identifiés par une seule communauté. Donc il n'y a pas de mélange.
Alors il faut nuancer. Il peut y avoir plusieurs communautés. Si on prend l'exemple des 4000 à la Courneuve,
C'est par là que le livre commence.
C'est un des endroits importants de la communauté comorienne. Reste qu'on a aussi beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Congolais qui s'y côtoient. Par contre, les Blancs ont en bonne partie disparu de l'espace public. Sur la cause de cette disparition.
Juste arrêtons-nous sur ghettoisation ethnique. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire en fonction de la couleur de peau, ou du ressenti, ou de l'origine, réelle ou supposée. C'est ça ce terme d'ethnique, qui est un terme brûlant dans notre République française, et qui pourtant existe. C'est-à-dire que c'est juste en fonction de la couleur de peau. On a concentré des gens dans certains quartiers en France en fonction de leur origine. Et quand je dis « on », il s'agit essentiellement des pouvoirs publics de l'État français. Ce que disent très bien les élus locaux en général. Il faut tendre l'oreille aux maires qu'il explique très bien, je pense, à la mère de Chanteloup-Lévy.
Ah bah, c'est celle que j'allais citer. Et sur comment est-ce qu'on peut sortir de ce phénomène de ghettoïsation, elle dit « Nos quartiers sont des sas d'arrivée. Arrivent des gens qui ont peu de compétences, qui parlent mal français, ils sont formés au fil des années. Et quand ils sont formés, ils s'en vont. »
C'est exactement cette image qu'elle emploie, l'image de sas ou de salle d'attente. Elle dit « Nos quartiers, Chanteloup-Lévy, 8000 habitants, une cité de 6000 habitants, c'est là où était tourné le film La Haine, et un petit bourg français très classique, 2000 habitants. Et elle dit dans la cité, l'État français profite des places en logement HLM pour mettre des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. Ils y restent. Et cette mère dit, on met beaucoup de moyens et on change et on améliore les choses. Et elle dit, mais par contre, moi j'ai deux indicateurs. Quand une maman de famille malienne vient me voir en me disant « Je veux un autre appartement, je voudrais changer mes enfants d'école », cet élu sait que dans les 2 ans, souvent, la famille part dans le quartier. Mmh. Ça fait un nouveau logement libre et l'État français remet une famille avec qui tout ce travail d'apprentissage du français, d'acquisition de compétences, est à refaire.
Je voudrais citer les propos de Claudia qui nous a appelé au standard parce que ça recoupe les propos de Patrick, je crois, à Argenteuil. Elle est au standard, Claudia, ou pas? Ah ben Claudia, je pensais pas que vous étiez au standard. Soyez la bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Angers?
Oui, exactement, là où j'ai déménagé parce que je ne supportais plus Montreuil. Ça fait 25 ans que j'étais à Montreuil et tous mes amis sont partis aussi, exactement, et c'est Montreuil, donc on n'est quand même pas à mon repas. On n'est pas à Trappe, on n'est pas à Chanteloup-les-Vignes et c'est Montreuil. Donc on ne trouve plus de vie française. En fait, on ne trouve plus de fromager, on ne trouve plus de bouchers normaux, on trouve que des bouchers halal et surtout les agressions dans la rue. Mon fils s'est fait agresser à l'âge de 12 ans dans la rue, on l'a dépecé de tout. J'ai vu devant chez moi des jeunes filles se faire agresser et presque tuer pour un sac. Donc ça devient insupportable. Et le problème des politiques, c'est qu'ils sont pas dans ces quartiers. Donc, ils n'ont aucune conscience, ils ne traversent même pas le périph', ils n'ont aucune conscience de ce que ça peut être d'habiter dans ces quartiers. D'autant plus que maintenant, il faut parler des rodéos, hein, des motos, des rodéos, que les gens supportent.
Arthur Freyer, l'Alex. Je voudrais vous entendre, parce que ça recoupe ce que dit Patrick à Argenteuil. Il y a ça aussi dans votre livre, ce que disent ces petites dames de je ne sais plus quelle ville qui se sont éloignées petit à petit. Voilà, l'esprit de votre livre, on le précise du tout, c'est pas d'être dans le repli, pas du tout. Mais quand vous entendez, Claudia, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est une partie de la réalité de ces quartiers qu'il faut absolument pas nier, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs témoignages dans le livre qui recoupe ce que dit Claudia. C'est des sujets très sensibles et compliqués. Oui, ça existe, l'indélinquance dans ces quartiers. Le danger qui a été fait depuis trop longtemps, c'est une sorte de mélange et de fourre-tout de limiter les quartiers à ça. Il faut travailler, mais ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est notamment l'absence de la présence d'élus. Souvent, c'est ce qui, si les élus ne vivent pas dans ces quartiers, on n'a pas, mais de la même façon que si nous, journalistes, on n'y va pas,
oui,
on a du mal à appréhender la réalité sociale d'un territoire.
Question de Julie. Bonjour Julie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je me demandais justement, je crois me souvenir qu'au tout début de son mandat, Emmanuel Macron avait commandité un rapport à Jean-Louis Borloo sur les banlieues, qui était justement un rapport qui devait s'appuyer sur le terrain et des solutions de terrain, notamment venant des maires de ces quartiers-là. Et le rapport a été immédiatement enterré aussitôt qu'il a été produit. Je voudrais savoir d'abord, est-ce qu'on sait pourquoi, alors que ce rapport avait été commandé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été utilisé? Et ensuite, est-ce qu'on peut espérer que le jour où il y aura une volonté politique de s'occuper enfin de ces quartiers, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à utiliser dans ce rapport?
Arthur Freyer-Lalex, merci pour votre question.
J'ai pas la réponse sur pourquoi le rapport Borloo a été effacé. J'en profite au passage pour dire que la revue Zadig, pour laquelle je collabore, a une longue interview de Borloo
dans le dernier numéro.
Voilà, un numéro consacré aux banlieues. Et très souvent, le problème, en 10 ans de reportage, j'ai vu 9 ministres de la ville se succéder et 3 présidents de la République. On n'a aucune vision d'ensemble, aucune politique globale à destination des quartiers populaires. C'est toujours du coup par coup. Et c'est ce qui manque aujourd'hui trop souvent. Les politiques disent, on va refaire, il faut réinjecter du droit commun. En gros, ce qu'on a sur le papier suffit. Sauf que c'est sur le papier, c'est jamais dans les faits. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des territoires où on manque toujours de profs, on manque de médecins, on manque de pharmacie, de bureaux de poste, de transport, etc. Donc, il y a un discours d'intention qui est fait, quel que soit le bord politique, droite comme gauche, et il y a une réalité qui fait qu'on est toujours à la remorque dans ces domaines-là.
Amaya, mal à l'aise avec ce que disent les gens sur les banlieues, tout cela a été fabriqué, la misère sociale, la misère des étrangers fabrique la ghettoisation.
Oui, la misère, la question ethnique, ou en tout cas culturelle, oui. Se superpose à la précarité, de façon très troublante en France. On le voit, prenons des villes parmi les 10 villes les plus oui. pauvres de France, hors région parisienne, Mulhouse, Roubaix, Vaux-en-Velin, sont des villes où on a toujours de fortes concentrations de personnes issues de l'immigration. Les deux se recoupent totalement, les questions sont avant tout sociales et économiques, mais aujourd'hui, les gens les plus pauvres et les plus précaires en France sont souvent des gens dans ces quartiers issus de l'immigration.
Et alors, les politiques de la ville se font, expliquez-vous, sur critères territoriaux, les zones franches. On s'intéresse, on mène des politiques à destination de territoire, pas des hommes et des femmes qui la composent. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier pour tenir compte de cette ghettoisation ethnique que vous décrivez et qui permettrait d'en sortir?
Le souci des problèmes des politiques de territoire, je me rappelle d'un reportage à Roubaix, justement, j'ai interrogé un pharmacien qui bénéficie des zones franches urbaines. En gros, déduction d'impôts s'il embauche quelqu'un dans le quartier, à Roubaix. Et il disait, mon souci, c'est trouver quelqu'un avec les compétences, le diplôme, là où je suis, c'était le quartier de l'Alma, il dit, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. J'ai embauché une secrétaire, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Et souvent, on voit ce décalage entre l'intention des politiques. Là, il s'agissait de zones franches urbaines, mais on a aussi droit aux emplois francs. C'est toujours plus ou moins la
défiscalisation.
Voilà, défiscalisation. On se retrouve avec des politiques de boîte aux lettres, des entreprises qui en bénéficient de cette défiscalisation sans qu'on crée d'une façon massive des emplois. Et je suis un peu à court de réponse sur qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Est-ce qu'il faut tendre vers un modèle plutôt anglo-saxon? Je ne suis pas du tout sûr, avec une forme de discrimination positive. Je pose juste la question dans l'ouvrage, parce que c'est une piste qui n'a pas été abordée. Je ne suis pas du tout certain que ce soit la bonne. Mais on propose en tout cas toujours les mêmes choses depuis 30-40 ans, sans amélioration de la situation.
Quand vous entendez à droite, en particulier en ce moment dans la pré-campagne présidentielle, dire une réponse à la solution des quartiers, c'est un moratoire sur l'immigration. Est-ce que c'est des choses que vous avez abordées avec les élus locaux? Qu'est-ce qu'ils en disent?
Le moratoire ne peut pas fonctionner. À l'époque de la mondialisation, la France est tellement intriquée dans les échanges internationaux que c'est complètement...
Illusoire.
Illusoire et idiot. C'est qu'on en a besoin de voir les échanges. Je me rappelle d'un monsieur malien. J'étais chez lui en reportage. Il ouvre son meuble de salon. À l'intérieur, il a les cahiers de compte d'un village, de son village d'origine. Grâce à l'argent de son travail, des gens de sa communauté, il a pu construire des châteaux d'eau, une école dans son village de Kirané au Mali. La France aujourd'hui des banlieues, c'est ça. C'est une sorte de mondialisation invisible par le bas qui échappe au radar, qui nous échappe à nous journalistes souvent parce que on n'a pas l'occasion d'y aller, et qui raconte merveilleusement cette interpénétration de la France et de l'étranger. Donc un moratoire, non, c'est complètement...
Et ce que vous racontez aussi, c'est que les associations antiracistes sont divisées sur l'attitude, la politique, les actions à mener, et de plus en plus divisées et voire polarisées au fil des années.
On a en gros une nouvelle génération d'associations antiracistes qui a émergé dans les années 2000, après 2005. Et on a les historiques style SOS Racisme. J'ai tendance à penser que les deux sont assez complémentaires.
Oui.
On les oppose, mais SOS Racisme fait quand même un travail dans les tribunaux vraiment intéressant. Les gens comme Rokhaya Diallo font un travail aussi très juste et passionnant de dénonciation avec des données très chiffrées. Les deux sont complémentaires. Il faut davantage structurer ça à échelle politique, probablement.
Et quel regard sur ceux qui se radicalisent? Vous citez cette scène, 29 novembre 2014, c'était à Gérard-Philippe Saint-Denis, Franco Lolia, le porte-parole de la brigade anti-négrophobie, qui vient pour protester, empêcher, pour dire les choses, la tenue d'un spectacle qui se veut antiraciste, mais qui a le malheur d'être l'œuvre d'un blanc.
On touche à l'une des questions des mesures prônées par certaines de ces associations je pense que sur la question de la liberté d'expression ou de création, il ne faut en aucun cas interdire un spectacle, jamais. C'est ça qui permet, c'est dans le cadre du débat et de la discussion publique et sereine que le que les idées vont progresser.
En un mot, je voudrais finir sur l'image de Yazid, qui est un de vos guides à Mantes-la-Jolie, et la question de où on est enterré. Et Yazid, qui a longtemps hésité, et c'est la dernière phrase du livre, « C'est à mes enfants de décider, c'est eux qui choisiront. »
Exactement. Yazid m'a dit « J'ai longtemps pensé que je me ferais enterrer en Algérie, j'ai trop souffert en France, trop victime du racisme, et au final, c'est exactement ce que vous venez de dire. » Au final, c'est pas moi qui déciderai, ce seront mes enfants.
Ce qui ouvre une perspective. Merci beaucoup Arthur Frayer-Lalex d'être venu dans les studios de France Inter et Les Blancs sont partis. C'est publié aux éditions Fayard.